Comment innover dans un environnement de plus en plus complexe? Comment utiliser l'intelligence collective pour inventer de nouveaux modèles économiques? Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce podcast baptisé Innover Malin, produit par la Brigade du Web, le collectif d'influenceurs B2B. Je suis Annie Abella, journaliste et fondatrice de la Brigade du Web. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Navi Rajou, qui est l'auteur du livre « L'innovation jugade, redevenons ingénieux », un ouvrage qui foisonne d'exemples inspirants pour résoudre les différentes crises auxquelles nous sommes confrontés. Et pour m'accompagner, je serai avec deux membres de la Brigade du Web, Émilie Marcois, qui est consultante, et Fabrice Frossard, qui est expert en innovation et en technologie. Bonjour Navi, Émilie et Fabrice.
Bonjour Annie.
Merci infiniment Navi d'avoir accepté notre invitation. Je l'avoue, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet ouvrage « Jugade, redevenons ingénieux » que vous avez d'ailleurs coécrit avec Jedi Brabou et Simone Ahouja. Navi, vous êtes consultant, essayiste, conférencier, vous sillonnez le monde pour prêcher la bonne parole, conférence TED globale de Rio en 2014, World Economic Forum, Harvard Business Review, vous êtes chroniqueur, au point d'avoir remporté le prix Finger 50 Innovation à Londres en 2013. J'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous fait autant courir, Navi?
C'est la passion de rencontrer des individus qui sont ingénieux et qui utilisent leur empathie, créativité au service du bien commun.
Si on devait définir l'esprit de jugade avec trois mots, ça serait lesquels, Navi?
Pour moi, les trois mots qui incarnent l'esprit de jugade sont l'agilité, la frugalité et l'inclusion.
Et si vous devez partager vos coups de cœur avec deux, trois exemples qui sont inspirants, émouvants, qui vous ont marqué, ça serait lesquels?
Je commencerai avec un exemple plutôt low-tech. C'est un potier de formation en Inde qui s'appelle Mansukh Prajapati, qui a développé un réfrigérateur conçu entièrement en argile, qui ne consomme pas d'électricité et qui est 100% biodégradable. Et puis un exemple plutôt high-tech, avec une start-up indienne qui s'appelle AlgoSurge, qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour convertir automatiquement des images 2D du rayon X en images 3D, permettant ainsi aux hôpitaux des pays du Sud de pouvoir faire des imageries beaucoup plus rapidement sans avoir à investir dans des scanners et des IRM coûteux. Donc, c'est deux exemples pour moi qui montrent aussi tout le spectre de cet esprit jugade, qui peut aller du low-tech au high-tech, qui peut être déployé à petite échelle ou à grande échelle.
En fait, l'esprit jugal, c'est le système D. On se débrouille dans un contexte où on est dans un contexte qui nous pousse à aller plus loin pour survivre, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Navi?
Effectivement, on peut assumer, dans la vie d'ailleurs, hein, durant Covid, on était vraiment tous, toute l'humanité était en mode survie, et on avait utilisé l'esprit jugal pour développer des masques, ou même des respirateurs, hein. On a vu plein d'exemples à travers le monde. Donc, ça peut être survie. Donc, encore une fois, on parlait de spectre. Donc, il y a tout un spectre d'applications possibles. On peut effectivement appliquer ça avec un esprit de survie. On l'a vu durant Covid. Mais les exemples que j'ai mis en valeur, ce sont des gens, vous savez, en anglais, ça sonne mieux. On dit, it's not enough to survive. We need to thrive. Donc, les gens qui appliquent le jugad que j'ai mis en valeur sont des gens qui vont au-delà de survie et utilisent en fait le jugad pour apporter la prospérité à leur communauté locale.
Vous êtes même allé plus loin parce que vous avez dit, Navi, le Covid est un don du ciel, dans le sens où ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, à réfléchir pour innover, justement, c'était les exemples que vous donniez. Mais c'est quand même rare de dire le Covid est un don du ciel, non, dans cette période qui a été compliquée.
Oui, effectivement, moi j'habitais à New York, c'était, vous vous rappelez bien, c'était l'épicentre de la pandémie mondiale. Et pourtant, ce que j'ai vu à la fois aux États-Unis et dans les trois cultures que j'appartiens, c'est-à-dire en France, États-Unis et en Inde, des exemples incroyables d'entrepreneurs qui ont justement utilisé l'esprit jugal pour innover plus vite, mieux, à moindre coût, pour développer vous rappelez bien, des masques de respirateurs, que ce soit le cas en Italie où un designer et un docteur ont adapté des masques de plongée de Decathlon pour en faire des respirateurs, ou le fabricant d'aspirateurs Dyson a adapté le moteur digital de leur machine pour en faire des respirateurs. Donc voilà des exemples qui ont montré que justement c'était un don du ciel parce que ça motivait beaucoup de gens, des entrepreneurs, mais aussi des grands groupes, à sortir un peu des sentiers battus et innover autrement, particulièrement de façon agile, frugale et inclusive.
Navier, revenons en France. Vous dites aussi la France traverse plusieurs crises, à la fois sociales, économiques, écologiques et politiques, et surtout une crise existentielle. Quels sont, selon vous, les défis que doit relever la France pour rester dans la course ?
Justement, je crois, Annie, si je peux être très candide, déjà, justement, il faut arrêter d'utiliser ce mot même, course, parce qu'effectivement, les deux grands géants géopolitiques du XXIe siècle, l'Amérique et la Chine, sans entrer dans une course aux armements en matière d'innovation technologique. Et je crois que la France aujourd'hui est 8e puissance économique mondiale. L'Inde est devenue la 5e et la Chine la 2e, peut-être même la 1ère bientôt. Et donc, je crois qu'il faut que la France réalise qu'on est devenu une puissance moyenne, via medium power, comme on dit en anglais. Et donc, la question, c'est justement, il ne faut pas continuer à rester dans cette course qui est engagé par l'Amérique et la Chine, faut plutôt montrer une troisième voie, une voie de milieu. Et cette voie de milieu en matière d'innovation, ce serait de conjuguer l'humain, le social et l'écologie. Ce serait donc une approche d'innovation qui serait plus humaniste, tout en étant respectueuse de l'innovation. Et c'est ce que j'appelle l'innovation nouvelle.
Mais est-ce que ça, c'est pas un petit peu naïf quand même, Navi? Désolé de cet aparté, mais quelque part, là, on a vu que les budgets militaires, ils vont en croissance pour la France, pour avoir, notamment pour se protéger, etc. On est quand même aussi en période de guerre, une guerre qui est pas très, très loin. Donc, est-ce que le fait de se dire, orientons-nous dans une troisième voie qui est plus humaine, sociale et écologique, est-ce que quelque part, ça n'a pas un côté naïf? Il faut rester ce côté un petit peu crédule et se dire l'armement, c'est bien pour les États-Unis, c'est bien pour la Chine. Nous, essayons une troisième voie. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste?
Si, parce que la preuve, le dernier ouvrage que je viens de publier met en valeur justement les innovations qui ont lieu dans les territoires en France. Oublions pas qu'on a plus de 100 départements en France. Donc finalement, ce que j'ai découvert en sillonnant la France pendant 8 mois l'an dernier, c'est qu'il n'existe pas une France. Et c'est là justement, il faut pas se comparer avec un pays comme l'Amérique ou un pays comme la Chine. Il faut puiser dans la diversité de la France. Et le fait qu'on a plus de 100 départements veut dire qu'on en fait, et je sais que c'est choquant de l'entendre, je parle même des Frances, et c'est ce que j'avais découvert. Donc, on a quasiment presque plus de 100 Frances au sein de l'Hexagone. Et c'est une force, parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il y a 100 façons d'innover, 100 façons de créer de la valeur. Et donc, dans mon livre, je mets en valeur des incroyables innovations humanistes, sociétales, écologiques, qui sont amorcées justement à travers plusieurs régions, territoires de la France.
C'est vrai, vous avez raison. Émilie, Fabrice, est-ce que ça vous inspire ce que vient de dire Navi? Est-ce que vous avez des choses à ajouter?
Moi, en ce qui me concerne, en fait, en entendant Navi parler d'innovation, je pense avant tout aux nombreux classements qu'on voit sortir ici et là et qui nous disent quels sont les pays les plus innovants dans le monde ou en Europe. Et je pense notamment au classement Global Innovation Index. Et du coup, ça m'amène à me poser une question, c'est qu'est-ce qu'un pays véritablement qui innove? Sur quoi on se base pour alors, il y a plein de critères, bien évidemment, mais voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle finalement d'innovation, et notamment en France, on fait souvent référence aux outils et aux processus. Et j'avais vu dans une interview que Navi avait donnée, notamment le fait qu'il était nécessaire aujourd'hui, de plus en plus, plutôt de désapprendre et d'être plus souple et spontané dans l'innovation. Alors que voilà, en France, on est très carré, certification, standardisation, les outils. Beaucoup de procédures. Et donc, peut-être aller vers plus de spontanéité et de souplesse.
Alors Navi, la première question, quelle est la définition de l'innovation? Comment un pays peut innover? Comment il peut être créatif?
Pour moi, une innovation, c'est une idée originale qui trouve une application concrète. Ça peut être effectivement dans le marché, sur le marché. Donc, ce serait une innovation, ce qu'on appelle commerciale, une innovation économique. Mais ce n'est pas restreint comme définition. Il ne faut pas se restreindre uniquement à l'aspect économique de l'innovation. Il y a aussi une innovation qui peut être sociétale, qui ne se mesure pas en termes de brevets ou le montant qu'on dépense en recherche et développement. Et effectivement, Émilie a raison. C'est-à-dire que les indicateurs aujourd'hui qui sont utilisés dans le monde occidental pour mesurer la capacité d'innovation d'un pays, ça se base sur deux indicateurs qui sont, j'appelle ça des indicateurs totems, qui sont le nombre de brevets déposés par un pays et le montant investi en recherche-développement. Et justement, ce qui est marrant et ou triste durant Covid, c'est qu'on a vu que ces pays, soi-disant, qui étaient les plus innovants en termes de budget R&D et nombre de brevets, étaient incapables, justement, comme Émile a dit, d'innover de façon improvisée. Donc, on voit qu'effectivement, au lieu d'être manichéen et de dire finalement, il faut aller à l'encontre de ce modèle dominant, moi, ce que je recommande, c'est que la France peut montrer qu'elle est capable de jongler deux modèles. Elle peut être un grand pays d'ingénieurs, continuer à investir dans R&D, déposer des brevets, mais en parallèle, elle peut enrichir sa boîte à outils d'innovation en incluant d'autres approches d'innovation, comme par exemple l'approche Dugal.
Fabrice, peut-être tu voudrais ajouter quelque chose, notamment au niveau des brevets, je crois que tu avais quelque chose à dire.
Oui, alors il y a plusieurs questions qui ont été posées. Alors au niveau des brevets, ce qui est intéressant en France, si on regarde les déposants de brevets, je crois que le premier c'est encore Renault, donc un fabricant de voitures, et que par ailleurs il y a beaucoup de sociétés américaines qui sont déposantes de brevets en France. Mais le vrai point peut-être de la discussion, et Annie, tu le disais, c'est vrai qu'on est face à deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis. On est avec une guerre au bord de nos portes. Et c'est vrai que réinventer des modèles aujourd'hui, c'est aussi se fixer des objectifs et une vision. C'est-à-dire que il y a une course de la part des pays à la puissance, qu'elle soit économique, politique, militaire, donc États-Unis, Russie, Chine. Et peut-être que l'objectif de la France n'est pas aussi clair que ça. Est-ce que l'objectif, c'est de se maintenir? Parce qu'on voit bien qu'on descend d'année en année au rang des économies. Alors, est-ce que c'est lié à l'innovation? Je ne sais pas. Est-ce que opter pour une voie du milieu, ça permettrait peut-être un mieux-être, une économie plus circulaire en France et peut-être un mieux-être dans les territoires, au détriment peut-être d'une puissance plus globale de la France dans l'échiquier mondial? Je pense que c'est des questions vraiment de fond qui sont posées par cette définition et surtout par les objectifs assignés à l'innovation. En fait, on parle, je pense, réellement d'un modèle et d'une vision pour l'avenir.
Oui, merci Fabrice. Alors juste, Émilie, tu avais parlé aussi qu'il fallait désapprendre, et c'est quelque part parce qu'on est en France dans des situations, lorsqu'on travaille avec beaucoup de, dans les grandes entreprises notamment, beaucoup de silos, etc., beaucoup de process, beaucoup de procédures, etc., c'est tout le contraire au niveau du Dugal, d'après ce que j'ai compris, Navi, où pour faire preuve d'agilité, il faut avoir un cycle de décision relativement court. Il faut savoir réagir en temps réel, et ça devient compliqué. Et c'est peut-être pour ça que les GAFA, que les grandes entreprises aussi, les grands industriels en France, ont du mal à s'adapter face à une situation de crise.
Oui, je dirais, Annie, que justement, et je crois que Fabrice l'a précisé, c'est très important, parce qu'effectivement, on parlait même de Renault, par exemple, qui dépose beaucoup de brevets. Ce qu'on note, c'est que le type de brevet et le type d'innovation ne s'applique plus qu'à des produits et des services. Donc, en d'autres termes, il va y avoir un nouvel genre d'innovation qui va s'appliquer à des modèles économiques, à des processus, à des structures organisationnelles, et je dirais même peut-être à des styles de leadership. Et c'est là, effectivement, pour répondre à votre question, et l'agilité, c'est là qu'on voit que la Chine, peut-être, est en train de devenir une inspiration, parce que une entreprise comme Haier, qui est le leader mondial de l'électroménager, ben eux, en fait, ils ont à peu près 100 000 employés et partenaires. Et au lieu d'avoir une organisation hiérarchique, ils ont 3 000 équipes qui sont transversales, qui arrivent, en fait, à innover de façon autonome. Donc, elles sont capables, en fait, de ce qu'on appelle sense and respond, c'est-à-dire détecter les opportunités sur le marché, et innover et lancer un produit en quelques semaines. Alors que pour la majorité des industriels français ou même européens, je dirais même américains, ça peut prendre des mois, voire quelques années, vous voyez, pour développer et lancer un bien électroménager.
Le conseil, ça serait plus au sein des grandes entreprises d'avoir des toutes petites équipes capables de réagir.
Et vous avez absolument raison, et je vous invite justement à regarder la structure de Crédit Agricole, qui, vous savez très bien, a une organisation très décentralisée. Et justement, j'ai interviewé le DG de Crédit Agricole Alpes-Provence, qui avant était justement le DSI de tout le groupe Crédit Agricole. Et c'est lui qui a introduit la méthode agile justement au sein de Crédit Agricole pour, exactement, Annie, comme vous le dites, justement créer des groupes commandos au sein de DSI qui seraient capables justement d'accompagner les différentes caisses régionales Parce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que c'est une entreprise hyper intéressante à étudier avec Crédit Agricole, parce qu'en fait, ils opèrent, ils fonctionnent en mode réseau. C'est-à-dire que chacune des caisses régionales est quelque part un peu le pionnier ou le laboratoire d'une approche d'innovation qui peut-être centrée sur l'utilisateur, ça peut être autour de l'IA, etc. Et dès qu'ils ont innové, testé dans une région, ils sont capables de répliquer ça dans tout le groupe. Et pour faciliter cette forme de d'essaimage, ils ont une structure d'informatique, de service informatique, qui elle-même est très agile, comme j'appelle, donc en mode commando. Donc au lieu d'avoir une grosse structure DSI centralisée, ils ont des équipes d'informaticiens qui accompagnent justement les différentes caisses pour pouvoir innover de façon très rapide, très agile. Et ensuite, ils sont capables ensuite de répliquer ça à grande échelle dans tout le réseau du Crédit Agricole.
C'est exactement ça. Merci Navi. On va passer à un autre point sur, on l'a vu, l'innovation du GAD repose sur l'agilité, la simplicité et l'aspiration à faire mieux avec moins. C'est une approche aussi qui s'appuie sur l'intelligence collective et inclusive. En quoi, Navi, l'intelligence collective et inclusive sont-elles indispensables à la créativité?
Vous n'avez qu'à voir une entreprise comme Decathlon, qui est le maître de l'intelligence collective, parce qu'ils ont implémenté le concept même de l'entreprise libérée et de l'innovation ouverte, hein, un concept qui fait appel à l'intelligence collective, il y a quasiment 20 ans maintenant, avant même que ces concepts soient formalisés et deviennent populaires en France. Donc effectivement, Decathlon, ils ont quasiment 100 000 employés, et justement, ils vont puiser dans l'intelligence collective de ces 100 000 employés pour pouvoir innover à une vitesse record. C'est pour ça qu'ils sont capables, effectivement, dans mon livre, je l'ai mis en valeur, parce qu'en fait, ils arrivent à conjuguer l'abordabilité, le produit sont très raisonnables, et en même temps très innovant, avec cette tente qui se déploie en 2 secondes, vous avez entendu parler, parce que justement, ils vont aller puiser dans la créativité des employés, et ils sont organisés comme Crédit Agricole en mode réseau. Donc, je dirais que l'intelligence collective devient importante parce que ce n'est pas d'ailleurs, Annie, que l'intelligence collective. Je crois qu'il faut aussi commencer à parler de collective wisdom, c'est-à-dire la sagesse collective. Parce qu'en fait, prenons encore une fois Decathlon, ils sont présents dans des dizaines de pays du monde, ce qui leur permet en fait d'avoir différentes perspectives, qui donnent accès en fait à une pluralité de perspectives qui imbue d'une sagesse quelque part. Et donc, avant, on parlait beaucoup d'intelligence collective, d'ingéniosité collective, mais moi, je vois de plus en plus la sagesse collective. C'est pour ça, d'ailleurs, Decathlon a été très agile dans la façon de répondre au Covid, parce qu'ils sont justement appuyés sur la sagesse collective des employés qui sont situés dans différents marchés.
La sagesse collective, c'est un joli terme pour dire peut-être le respect des collaborateurs. Pour la petite histoire, Decathlon, j'avais discuté avec un cabinet de recrutement qui recrutait pour Decathlon, qui me disait qu'en fait, eux, le critère numéro un, c'est que tous les employés, tous, sans exception, devaient faire du sport. C'était vraiment le critère numéro un, avant tout le reste, avant les diplômes, etc. Et le fait, quand vous parlez de sagesse collective, moi j'ai vraiment l'impression que c'est des sociétés quelque part à mission, dans le sens où elles œuvrent pour le collectif. Mais en plus, il y a un grand respect au niveau des équipes, de leurs idées, parce que quand vous dites l'intelligence collective, effectivement, si un collaborateur a une idée et qu'elle est mise à la poubelle ou parce qu'on estime que ça n'a aucun intérêt, là, au contraire, par exemple, dans ce type d'entreprise, on respecte le collaborateur, on respecte ses idées et on va juste même aller plus loin, un cran plus loin, en se disant, c'est une bonne idée, comment on peut l'améliorer, comment on peut la mettre en place. Est-ce que je me trompe ou...
Vous avez tout à fait raison, Annie, et si je crois que c'est, oubliez pas que c'est la force des Decathlon, mais aussi d'autres entreprises où, en fait, les salariés, peuvent se mettre dans la peau des consommateurs. Donc, parce qu'en fait, finalement, la raison d'être des Decathlon, c'est de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Donc, quelque part, si votre cible, ce sont des athlètes et des sportifs, des gens qui font du sport, eh ben, ce serait quand même important que, vos propres employés ont une passion pour le sport. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est effectivement, quand ils recrutent, ils s'assurent que leurs employés sont capables, en fait, de s'identifier, en fait, de façon viscérale avec les clients qu'ils aident à accompagner. Donc, on n'est même pas dans l'idée de design thinking, mais carrément ce que j'appelle design feeling. C'est-à-dire qu'ils peuvent viscéralement ressentir les besoins latents des clients qui sont des sportifs.
Absolument. Alors, il y a un bel exemple dans la tech d'intelligence collective, c'est l'open source, et en ce moment aussi l'intelligence artificielle. Fabrice, ce sont deux sujets sur lesquels tu souhaites intervenir et nous expliquer comment on peut innover ensemble, et peut-être commencer par l'open source.
Oui, alors effectivement, c'est l'open source. C'est marrant parce que ça reprend un tout petit peu le modèle utilisé par Decathlon ou par de nombreuses autres entreprises. Je pensais à Lego particulièrement, qui avait fait un peu la même approche que Decathlon en demandant à ses clients quels seraient les modèles qu'ils souhaitaient. Et donc, il y a vraiment cette idée d'écoute et de participation de tout à chacun à construire une solution pour le bien commun. Et là, l'open source, effectivement, c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir, en tout cas dans l'IT, où chacun va contribuer à améliorer une solution à sa petite échelle, en trouvant la meilleure solution, en trouvant, c'est quasiment de l'innovation jugade à chaque fois, mais appliquée à la technologie. Et ça permet vraiment de construire, de bâtir tout un édifice qui participe au bien commun. Et aujourd'hui, par exemple, s'il n'y avait pas eu l'open source, cette intelligence collective et la contribution de tout à chacun, il n'y aurait pas d'Internet.
C'est vrai.
Internet s'appuie à 80% sur de l'open source.
Est-ce que tu penses qu'avec l'intelligence artificielle, Dieu sait si en ce moment on en parle beaucoup, est-ce que tu penses qu'on prend le même virage ou c'est quand même beaucoup plus compliqué avec l'intelligence artificielle?
Alors, il y a deux choses. Dans sa conception, l'intelligence artificielle telle qu'elle est entendue dans l'acception générale, en fait, repose sur l'open source. L'ironie de l'histoire, c'est que ChatGPT, dont on a beaucoup parlé et dont on va encore beaucoup parler, repose en partie sur des recherches qui ont été mises à disposition par Google pour le bien commun. C'est-à-dire, je trouve ça, on peut sans doute l'améliorer, donc je vous livre tous les codes sources, entre guillemets, et à vous d'améliorer ça pour faire avancer tout le monde sur ce sujet. OpenAI, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris effectivement ces brevets, ils ont même débauché des ingénieurs de Google, et ils ont continué de développer le modèle de langage. Et une fois que ça a été à peu près fonctionnel, avec la version 3.5, ils ont dit « Ok, on ferme tout ». Donc, eux, ils ne sont pas très jugades, ils ne sont pas très open source. Ce n'est pas le concept. Là, on revient dans un capitalisme pur et dur. Et ce qui est intéressant, je vais finir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, les géants, que ce soit Facebook, Amazon, Google, dans une moindre mesure Microsoft, se disent, là, face à nous, on a énormément de communautés open source qui développent, qui s'appuient sur les travaux antérieurs et qui continuent de développer ces modèles de langage. Et en fait, ils le font mieux que nous. C'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup moins de data. Donc, on revient, il y a une espèce de frugalité de la donnée. Et ils arrivent à avoir de meilleurs résultats. Donc, le vrai dilemme aujourd'hui pour ces entreprises, c'est finalement, est-ce qu'on continue en mode open source pour profiter de l'intelligence collective, quitte à perdre des revenus, parce que c'est quand même ça leur enjeu, ou alors, est-ce qu'on fait ça de notre côté, avec les risques peut-être d'aller moins vite. Donc, même dans l'open source, paradoxalement, il y a cette notion d'agilité. Parce qu'on a la multitude pour trouver les bonnes solutions à des problèmes et pour faire avancer finalement la science, parce que ça reste de la science.
Est-ce que, Navi, vous partagez cet avis? Est-ce que l'open source, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est compatible avec un système capitaliste, tout simplement?
Je pense que oui, parce qu'en fait, si vous regardez bien ce qui est en train d'arriver, c'est que je vais donner un exemple très concret, il y a Nielsen, qui est un cabinet de consultants en marketing, qui a développé une solution très intéressante qui s'appuie sur les algorithmes d'intelligence artificielle, je dirais même d'IA générative, et qui, en fait, utilise l'intelligence collective des consommateurs. Donc, concrètement, une marque peut partager des concepts de nouveaux produits en ligne à un panel de centaines de clients qui vont réagir, qui vont, en fait, dire, voilà, ce concept, je l'aime mieux que d'autres. Et puis, l'IA générative va s'appuyer sur l'input pour générer des alternatives. Et donc, le système va pouvoir optimiser très, très rapidement un produit à un temps record en s'appuyant simultanément sur l'IA, mais aussi, on peut parler de l'insight collective, quoi, c'est-à-dire vraiment l'intelligence, ou du moins l'input des consommateurs. Donc, je crois qu'effectivement, encore une fois, il ne faut pas raisonner de façon binaire, voire manichéenne. Je crois qu'il y a, c'est pour ça que je parle de cette troisième voie, où effectivement, on peut faire coexister harmonieusement peut-être un modèle for-profit, qui est plutôt capitaliste, avec des modèles qui sont un peu plus, disons, inclusifs, comme l'open source, et combiner ça avec des technologies émergentes comme l'IA et particulièrement l'IA générative.
Autre possibilité pour innover façon Jugad, faire avec les compétences qui existent au sein de l'entreprise, à savoir transformer le salarié en entrepreneur. Et oui, ça existe, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Émilie, tu souhaitais réagir à ce sujet, peux-tu nous dire pourquoi cette approche peut-elle être source d'ingéniosité ?
Alors c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, même si j'ai pas eu l'occasion, je dirais même la chance d'être intrapreneur au sein d'une entreprise, parce que je suis indépendante depuis longtemps. Mais ce que j'aime bien dans le principe de l'intrapreneuriat, c'est que du coup on peut se dire que l'innovation appartient à tous, et c'est pas seulement certaines personnes qui ont le droit d'innover et d'autres non. Chacun au sein de l'entreprise, chaque salarié a la possibilité d'innover, ça c'est quelque chose de formidable. Et l'autre chose, c'est que au final, on l'a évoqué avec l'exemple de Decathlon et l'intelligence collective. C'est que voilà, l'intrapreneuriat ne se résume pas à la créativité individuelle au final. C'est avant tout une démarche qui est collective, c'est une démarche qui est humaine. Et finalement, ce qui est le succès d'un projet, quel qu'il soit, je pense, selon moi, c'est que derrière, on a une équipe qui est pluridisciplinaire, et c'est pas une personne qui a les connaissances au niveau technique, il y a des personnes qui ont des connaissances au niveau sociologique, et ainsi de suite. C'est bon, quand on crée une entreprise, il faut des compétences diverses. Donc, on essaye de s'entourer d'une équipe qui a des compétences diverses, parce que chacun va amener sa pierre à l'édifice, va apporter son expertise. Et l'intrapreneuriat, c'est exactement ça. Et puis, j'ai envie aussi d'évoquer quelque chose qui me paraît important aussi, Naville a plus ou moins déjà évoqué depuis le début de ce podcast, c'est tout ce qui est tout ce qui relève des qualités humaines. Au final, pour innover, c'est pas seulement avoir une idée, c'est que derrière, on va mettre les choses en place. Il va falloir faire preuve d'humilité, également d'empathie. Il faut être curieux aussi. Il faut être curieux envers les idées, les choses qu'on a envie d'explorer, mais aussi curieux envers les autres. Il y a la notion d'enthousiasme, de confiance. Donc, en fait, l'intrapreneuriat, c'est énormément de choses qu'on a derrière. Beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités humaines, beaucoup d'humains, puisqu'on vient de parler d'intelligence artificielle. Donc, ça fait du bien de revenir un peu sur l'humain. Et puis, on va au-delà des silos. Quelque chose qui est pas forcément idéal. On l'a déjà évoqué tout à l'heure en parlant de la France et des process.
Tu sais, ce que tu disais, Émilie, ça me faisait penser un peu à la Brigade du Web, quoi.
Oui, exactement.
Ensemble,
oui.
On est quand même beaucoup plus forts.
C'est ça.
Alors, on l'a compris, nous n'avons plus le choix. Et dans un monde de plus en plus complexe, il va falloir se serrer les coudes, réinventer nos schémas de pensée, notre façon d'être, nos modèles économiques. Navi, Émilie et Fabrice, est-ce que vous avez un message à faire passer ?
Oui, le message à l'audience qui nous écoute, c'est de dire finalement, prenez le risque, osez entreprendre et innover de façon originale. Et surtout, avec l'esprit de Jugad, de réaliser que n'importe qui est capable d'innover avec très peu de moyens. Donc, je vous invite vraiment à devenir des jugadous. C'est un mot hindi qui veut dire un pratiquant de jugad qui a un esprit agile, frugal et inclusif.
J'adore jugadous. Ça rime en plus avec brigadou. Émilie.
Alors moi, j'ai envie de dire plusieurs choses, mais c'est vrai que là, on a très peu de temps. Donc, je dirais que déjà, tout le monde est concerné, et pas seulement les pays émergents, puisque Navi en a beaucoup parlé dans ses écrits et dans ses prises de parole. Donc, tout le monde est concerné, même au niveau occidental. Ensuite, c'est que, voilà, dans le contexte qu'on vit écologique, économique et sociétal, c'est hyper important. Et pour rejoindre ce qu'il vient de dire, c'est tout simplement devenons tous des MacGyver. J'adore son expression.
Oui.
Donc, je peux pas m'empêcher de faire référence à cette expression et puis à une série célèbre série télé. Voilà.
Merci Émilie. Fabrice, tu as le mot de la fin.
Quelle responsabilité. Ouais. Pour peut-être compléter ce qui vient d'être dit, je pense que cette voie du milieu, ce Jugad, peut être opérationnelle si on accepte de partager et de donner. C'est-à-dire, je pense que tout ça, je pense qu'il faut énormément de générosité pour innover.
Très bien, merci Fabrice. Un grand merci Navi pour votre présence, votre enthousiasme et surtout votre vision qui nous inspire. Merci Émilie et Fabrice pour vos éclairages.
Merci à
vous pour votre écoute. Merci Annie, merci Navi.
Merci. Et votre fidélité. En attendant, suivez la Brigade du Web sur Twitter avec le compte La Brigade du Web et le hashtag LBW. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de booster vos événements, vos contenus, tribunes, communiqués, white paper à annie@magdigitalweek.com. Merci à tous. Au revoir.